en famille avec Zour sur Radio Orient.
La Coupe du Monde n'est pas seulement un événement sportif, c'est aussi un moment où des familles se rassemblent, où les enfants découvrent le monde, des émotions, des cultures, des histoires. À travers les matchs, les rituels, les images et les discussions, les parents ont une occasion unique d'accompagner leurs enfants, de leur transmettre des valeurs et les ouvrir à la diversité et de nourrir leur curiosité. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet ensemble avec notre invité Doha Hassouni. Ce grand rendez-vous peut devenir un terrain d'apprentissage, de partage et de créativité pour les plus jeunes, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Madame Doha Hassouni.
Bonjour ma chère Zohour et bonjour à toutes nos auditrices et nos auditeurs sur les ondes de Radio Orient. Et toujours un plaisir d'être ici avec vous.
Doha, quelles valeurs essentielles les parents peuvent-ils transmettre à leurs enfants à travers la Coupe du Monde?
Je trouve que c'est une très belle question pour commencer parce qu'on voit souvent la Coupe du Monde comme un événement sportif, alors qu'en réalité, c'est un formidable terrain d'apprentissage pour les enfants. Bon, vous allez me dire comment? Tout simplement, quand un enfant regarde un match avec ses parents, il ne regarde pas seulement un ballon qui circule sur un terrain. Il regarde, il observe aussi les réactions des adultes. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'il voit comment on célèbre une victoire. Bon, et aussi comment on traverse une déception. Et c'est peut-être là la plus grande richesse. Parce que la vie n'est pas faite uniquement de victoires. Nos enfants auront des réussites, mais ils connaîtront aussi des échecs, des refus, des moments où les choses ne se passeront pas comme ils l'espéraient. Donc si devant un match perdu, un parent dit par exemple, bon là je suis déçu, mais bon c'est le sport, aujourd'hui c'était l'autre équipe qui était meilleure et c'est ça le jeu. Là il transmet quelque chose de précieux. Il apprend à son enfant que on peut être triste sans être agressif. On peut être compétiteur sans manquer de respect et qu'on peut perdre sans perdre sa dignité. Donc la Coupe du Monde, c'est aussi une magnifique occasion de parler de persévérance aussi. Parce que derrière chaque joueur, il y a des années d'entraînement, il y a des blessures, il y a des sacrifices, parfois des sélections ratées, avant d'arriver au plus haut niveau, comme par exemple quand on les voit jouer dans une Coupe du Monde. On montre comme ça aux enfants que les réussites ne tombent pas du ciel. Donc il y a ça et puis il y a aussi cette valeur qu'on oublie aujourd'hui, qui est celle du collectif. Et je pense que aujourd'hui on grandit dans une société où l'on valorise beaucoup la performance individuelle, alors que sur un terrain, même le meilleur joueur du monde ne gagne pas tout seul. Donc ça permet d'expliquer aux enfants qu'on avance souvent grâce aux autres, enfin, ou avec les autres, donc en famille, à l'école et plus tard dans le travail. Et finalement, ce que l'on transmet aussi pendant la Coupe du Monde dépasse largement le football, parce qu'on transmet une manière d'être avec les autres, de vivre les émotions, de respecter les règles, de se relever après un échec. Et justement, cet événement nous ouvre aussi une formidable fenêtre sur le monde.
Comment, Doha, les matchs peuvent-ils devenir une porte d'entrée pour ouvrir les enfants à la diversité du monde?
Alors, c'est probablement l'une des choses que je préfère dans une Coupe du Monde. Pendant quelques semaines, le salon de la maison devient presque une salle de classe, même une salle de classe joyeuse. Les enfants voient des drapeaux, entendent des langues différentes, découvrent des hymnes, des visages, des traditions parfois qu'ils ne connaissent pas. Et c'est une occasion extraordinaire pour nourrir leur curiosité. On peut leur demander, bon, tu sais où se trouve ce pays? Est-ce que tu connais son climat? Ce qu'on y mange, les langues qu'on y parle, les animaux qu'on y trouve. Et en quelques minutes, un simple match peut devenir un voyage. Les enfants adorent apprendre quand cela a du sens pour eux. Et il y a un autre message important. Derrière chaque maillot, il y a des enfants comme eux. Des enfants qui vont à l'école, qui jouent, qui rêvent. Et ça aide à développer l'empathie. On peut aussi parler de parcours de certains joueurs. Beaucoup viennent de milieux très modestes. Certains ont grandi dans des contextes difficiles, d'autres ont connu l'exil ou ont une double culture. Cela montre aux enfants que les différences sont une vraie richesse. Et c'est particulièrement intéressant dans des familles qui vivent elles-mêmes entre plusieurs cultures. Alors les enfants comprennent qu'on peut aimer plusieurs pays, parler plusieurs langues, avoir plusieurs appartenances sans que cela soit contradictoire. Au contraire, ça peut devenir une force, une richesse. Et lorsqu'on découvre le monde, on découvre aussi des façons très différentes de vivre nos émotions.
Les enfants vivent les matchs intensément. Comment les aider à comprendre et à exprimer leur émotion, Doha?
C'est vrai que les enfants vivent les matchs, je vois les miens, ils vivent les matchs avec tout leur cœur. Et pour eux, ce n'est pas juste du football. Ils sautent, ils crient, ils pleurent parfois et peuvent même se mettre très en colère. Et c'est complètement normal. Le cerveau émotionnel des enfants est encore en construction et ils ressentent tout de manière intense. Notre rôle n'est donc pas de leur dire « bon, ça va, c'est rien ». D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent. Parce que pour eux, c'est quelque chose. Donc, on peut plutôt mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Par exemple, bon, je vois que tu es vraiment déçu. Tu avais très envie que ton équipe gagne. Tu es frustré. Voilà. Rien que le fait de nommer une émotion aide déjà le cerveau à commencer à la réguler. Et puis, si l'équipe perd, on fait comment? Là encore, c'est une formidable occasion d'apprendre. Ceci dit, bien sûr, que le parent lui-même arrive à réguler son émotion. Donc, on peut dire, oui, ça fait mal de perdre. Et moi aussi, je suis déçue. Mais une défaite ne définit pas une équipe. Et elle ne définit pas une personne non plus. Ce sont des phrases, vous voyez, très simples, qui accompagnent finalement les enfants bien au-delà du football. Parce qu'un jour, ils perdront un concours. Ils rateront un examen, ils ne seront pas choisis dans une équipe. Ce qu'ils retiendront, ce n'est pas le score d'un match. Ils retiendront la manière dont les parents les ont aidés à traverser cette émotion. Et les émotions ne sont pas nos ennemis, elles sont des messagères. Et lorsqu'un enfant apprend qu'il peut ressentir une émotion sans être submergé, finalement, ça développe une compétence qui lui servira toute sa vie. Donc justement, les familles peuvent créer des moments très simples pour vivre tout cela ensemble.
Doha, quel rituel simple les familles peuvent-elles instaurer pour renforcer le lien pendant cette période?
On pense souvent qu'il faut organiser des choses extraordinaires pour créer des souvenirs, alors qu'en réalité, ce sont les petits rituels, les petites routines qui marquent le plus. Par exemple, préparer le match ensemble, choisir un repas. Vous voyez, voilà, je sais pas, des pizzas, des pop-corn, installer des coussins, sortir les drapeaux, chacun avec son petit rôle. Et les enfants adorent participer. Bon, après le match, on peut aussi prendre 5 minutes pour discuter, pas pour analyser la tactique, mais pour demander qu'est-ce que tu as préféré, quel joueur t'a impressionné. À quel moment tu as ressenti le plus d'émotions? Ces échanges développent le dialogue. Et puis, j'aime beaucoup une petite tradition toute simple. À la fin du match, chacun partage un moment positif, même si son équipe a perdu. Ça entraîne le cerveau à chercher ce qui a été beau malgré la déception. Et on peut aussi inviter les enfants à féliciter une belle action, même lorsqu'elle vient de l'équipe adverse. C'est une belle manière d'apprendre le fair play. Les souvenirs familiaux ne naissent pas. S'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est que ces souvenirs-là ne naissent pas forcément de grands événements. Ils naissent souvent de ces petits instants répétés. Des instants où l'on rit ensemble, où l'on partage, où on se sent connecté. Et ces moments peuvent même continuer loin de l'écran.
Comment transformer la Coupe du Monde en activité créative et ludique pour les enfants de Doha?
Les enfants, comme j'ai dit, les enfants apprennent énormément en participant lorsqu'ils deviennent acteurs. Alors pourquoi ne pas leur proposer de fabriquer, par exemple, leur propre album de la Coupe du Monde? Ils peuvent dessiner des drapeaux, coller des photos, écrire des résultats, inventer une mascotte, créer leur équipe idéale. Bon, je vais donner quand même des exemples parce que j'adore faire ça. Les plus petits peuvent fabriquer un ballon avec du papier, colorier les maillots ou imaginer même leur propre pays avec son drapeau et son hymne. Les plus grands peuvent devenir des journalistes sportifs. Ils réalisent une petite interview de tous les membres de la famille après le match et à la fin représentent le résumé de la rencontre comme à la télévision. C'est excellent, tout ça pour développer leur langage, leur imagination et leur confiance en eux. Et on peut aussi organiser un mini-tournoi à la maison ou au parc. L'objectif, bien évidemment, n'est pas de gagner. L'objectif, c'est de jouer ensemble. Et pourquoi ne pas cuisiner même un plat inspiré du pays qui joue, par exemple, le soir même? L'enfant, l'objectif, en fait, c'est que l'enfant comprenne que découvrir un pays, ce n'est pas seulement regarder une équipe jouer, c'est aussi découvrir sa culture, aller plus loin. Et toutes ces activités montrent aussi que un écran peut devenir un point de départ vers de vraies expériences, des expériences réelles. Et ça nous amène à une question essentielle aujourd'hui, apprendre à prendre du recul face aux images que l'on regarde.
Doha Hassouni, de quelle manière les parents peuvent-ils utiliser cet événement pour développer l'esprit critique et le regard médiatique des enfants?
Merci pour cette question parce que oui, l'esprit critique et comment le développer chez les enfants, voire même chez les adultes, c'est très important. Aujourd'hui, les enfants ne regardent plus seulement les matchs. Ils voient aussi les ralentis, les débats, les réseaux sociaux parfois, les commentaires, les vidéos qui deviennent virales. C'est donc une excellente occasion de leur apprendre à ne pas croire tout ce qu'ils voient ou tout ce qu'ils entendent. On peut leur poser des questions très simples. Pourquoi penses-tu que cette vidéo montre uniquement cette action? Est-ce qu'on a toute l'histoire ou seulement un extrait? Pourquoi certaines images font-elles aussi réagir ou autant réagir? Petit à petit, ils comprennent que les médias sélectionnent des images, racontent une histoire, mettent l'accent sur certains moments plutôt que sur d'autres. Et on peut aussi parler des réseaux sociaux. Un joueur peut être porté au nu un jour, puis violemment critiqué le lendemain. Ça permet d'aborder un sujet très actuel, qui est le cyberharcèlement, les jugements rapides et l'impact des mots. Et les enfants découvrent que derrière un sportif de haut niveau, il y a avant tout un être humain. Donc finalement, la Coupe du Monde est bien plus qu'un rendez-vous sportif. C'est un prétexte, c'est une occasion merveilleuse pour parler de respect, de coopération, de culture, d'émotion, de résilience, mais aussi de notre manière de regarder le monde avec curiosité et avec discernement. Et si les parents saisissent ces petites actions du quotidien, alors un simple match peut parfois laisser plein d'apprentissages qui vont durer toute une vie.
Merci beaucoup Doha Hassouni pour cet éclairage précieux. La Coupe du Monde, au-delà des scores et des exploits, peut devenir un espace où les enfants grandissent, comprennent leurs émotions, découvrent le monde et développent leur regard. Et si chaque famille transformait ces moments en instants de lien, de dialogue et de joie, alors le sport remplirait pleinement sa mission. Rassembler, inspirer et transmettre un beau terrain de jeu pour les petits comme pour les grands. Merci beaucoup, Doha Hassouni.
Merci beaucoup, merci à vous, ma chère Zohour, et à très bientôt.
En famille, avec Zohour sur Radio Orient.